Hey. How you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Déliré.
L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights to violent ends.
Bonjour à tous et bienvenue dans Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, Association des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Nous sommes en janvier 2021 et l'un des seuls plaisirs qui nous reste encore aujourd'hui consiste à pouvoir bâcher un peu plus et jusqu'à satiété cette année de merde que fut 2020, ou comme Time Magazine l'a nommé, pire année de l'histoire. Alors on n'évoquera pas ici la crise des masques, l'invirable ou presque Donald Trump, les razzias sur le PQ, le confinement, peut-être si un peu quand même le confinement, pour se concentrer plutôt sur l'année 2020 en série. Bonjour, je suis Yves Lecor, et pour revenir sur cette année de merde, rappelons-le, j'ai demandé à nos trois invités de venir parler de leur ressenti sur 2020, et plus généralement sur les événements séries qui ont rythmé le confinement. Pour m'accompagner dans ce podcast toujours confiné, malheureusement, check du coude à Delphine Rivet de Combini.
Salut!
Check du pied à Stéphanie Fuseau de Télé Loisirs et Placement Média.
Check du pied.
Et salut avec distanciation sociale de rigueur à Jennifer Fadjemi, journaliste indépendante, notamment pour la newsletter What Good, et autrice du livre Féminisme et Pop Culture dans toutes les bonnes librairies en mars prochain.
Salut. I'm cut off from the world, isolated alone. This is what I call existencing. No one can touch me or boss me around. Social distancing.
Gary, aren't you supposed to be on your Zoom call?
Stay away from me, huh? Yeah. You got to keep your social distance. Cause all I'm gonna do is sing about how much I love you and I need you. Social distancing.
Sweetie, I know these are challenging times.
Yeah. Social distancing.
Bon, pour commencer, on va se placer sur un mode personnel. Pour voir ce qu'il vous reste un peu de cette année 2020, je pense que vous vous en rappelez encore, c'est tout frais, histoire de vous rappeler vos bons souvenirs, de bons souvenirs. Alors, ce confinement pour vous, c'était comment ? Qui se lance ? Jennifer, peut-être ?
Ouais. Alors, bah, je pense comme tout le monde, c'était assez mitigé parce que à la fois beaucoup de travail, beaucoup de choses d'un coup, de news, de mauvaises news, mais en même temps. Ça a été le moment de faire une pause, de regarder plus de contenu audiovisuel, de prendre un peu plus de temps, en tout cas pour les personnes qui avaient la chance de travailler de chez elles ou de travailler tout court. Et donc c'est vrai que moi, j'en ai profité pour écrire. Donc ça, c'est la partie travail. Mais à côté de ça, vu que ça fait partie aussi de mon travail, j'ai regardé pas mal de séries. Mais bizarrement, plus de films. C'était pour moi l'occasion un peu de rattraper des films, des classiques que j'avais pas forcément vus. Et du coup, de remplir ma liste Letterboxd. Mais comme tout le monde, j'ai regardé pas mal de séries. Donc pendant le confinement, j'arrive plus trop à savoir parce que on a l'impression que cette année a duré 10 ans. Donc je sais plus.
On va trier un peu, on va en profiter.
J'ai regardé pas mal de télé-réalité. C'était la période où il y avait Love is Blind, il y avait Selling Sunset, et donc après je plus sur les séries à proprement parler. C'est aussi la période où il y avait Insecure, I Made This For You, mais qui était, je crois, coup sur coup. Je crois Insecure s'est terminé et en fait I Made This For You commençait. Il y avait You aussi, la deuxième saison, Normal People, Unorthodox, The Plot Against America, et plus récemment, donc le deuxième confinement, donc tout le monde a regardé The Queen's Gambit et Industry. Et donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur de ce deuxième confinement qui est passé beaucoup plus vite que la première fois. Voilà, donc Industry, ça parle de jeunes dans l'industrie de la finance, mais qui peut finalement se transposer à plusieurs industries. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'arrivée d'étudiants diplômés dans le monde du travail. Et là, à travers leur expérience et cette espèce de première fois plongée dans le monde vicieux professionnel, on voit les dynamiques de pouvoir entre les genres, entre des personnes de différents milieux, entre des personnes de différentes origines, etc. Et donc ça a vraiment été mon coup de cœur de l'année et de ce confinement.
Ok. Stéphanie, toi, tu étais plus partie sur pas mal de séries doc, je crois. Hein.
Oui, ben en fait, moi, j'ai eu deux confinements différents. Le premier confinement s'est très bien passé, curieusement. J'étais plutôt de bonne humeur et j'ai regardé, curieusement aussi, des choses qui n'étaient pas forcément positives, mais qui m'ont fait beaucoup de bien, dont la série Afterlife de Ricky Gervais, qui parle de deuil, mais qui est très drôle et qui a commencé mon confinement. Et du coup, après, je me suis vraiment remis dans des séries pour le plaisir et pas pour le travail. Et j'ai retrouvé ce côté plaisir de regarder des séries rien que pour moi, chez moi, en tenue doudou, voilà, avec mes bons becs. Et donc ça a été le premier confinement. Et le deuxième confinement, finalement, oui, le premier confinement aussi, j'oublie, il y a eu aussi effectivement les docs criminels. Hein, je pense que j'ai regardé tout ce qui existait sur toutes les plateformes, dont Tiger King, au Royaume des Fauves, qui m'a fait hurler de rire. Donc voilà, j'ai aussi fait un petit peu le panorama. Je suis experte maintenant, hein, je pourrais jouer dans toutes les séries criminelles. Et sinon, voilà, ça a été dans le deuxième confinement, ça a été plus difficile la distanciation avec les amis, etc. Donc j'ai plus ressenti la solitude. Donc là, les séries, ça a été plus un refuge. J'ai cherché plutôt des choses, voilà, qui me faisaient du bien. Donc ça a été Mandalorian avec le petit bébé Yoda qui me fait toujours autant craquer. Ça a été le jeu de la dame parce que bah en fashionista, moi j'ai juste craqué sur ses tenues, même s'il n'y a pas que ça dans la série, bien sûr. Et donc ça a été plus voilà un moyen refuge doudou dans le deuxième confinement. Donc dans les deux cas. Et puis un peu comme Jennifer aussi, j'ai regardé des films. Et là c'était plus par le manque de cinéma vu que les cinémas sont fermés. On espère qu'ils vont rouvrir bientôt. Ouais.
On reviendra sur cette tenue doudou un peu plus tard. Ça m'a l'air un super. C'est un petit peu. Delphine, toi de ton côté, ça s'est passé comment?
Le premier confinement, finalement, c'était assez paradoxal parce que j'ai regardé assez peu de séries. C'est ce qui est plutôt pas une habitude venant de moi parce que je fais rarement des ruptures comme ça dans mon programme, dans mon planning de séries. J'en ai regardé beaucoup moins. On va dire que j'ai regardé vraiment uniquement celles qui étaient nécessaires pour le travail. Je me suis vachement réfugiée, un peu comme Jennifer en fait, dans la télé-réalité, alors que je regarde jamais, mais genre vraiment. Et ce qui m'a fait, je suis tombée dans un vortex en fait. Ouais, j'ai commencé.
Un refuge,
en fait, j'ai regardé.
Un refoncement, ouais.
Ouais, mais en fait, c'était assez cathartique parce que j'avais regardé une télé-réalité sur Netflix. C'est une télé-réalité de confinement. C'était The Circle. Et en fait, j'ai vu la version américaine. Après, j'ai découvert qu'il y avait deux saisons britanniques. Donc, je les cherchais partout. J'ai fait les fonds de tiroirs de l'internet pour les trouver. Ensuite, j'ai vu la version brésilienne sur Netflix. Ensuite, la version française est arrivée, donc je m'en sortais plus. Donc, heureusement, ils ont arrêté de faire des versions. Donc, j'ai regardé ça.
D'accord.
Ouais, of course, j'ai regardé Selling Sunset parce que c'est beaucoup trop con. Et c'est des baraques hallucinantes. Et, enfin, c'est débile, hein, c'est vraiment débile. Non, j'avais besoin de trucs débiles, je crois. Et le premier confinement, je pense que vraiment, c'était assez angoissant au final. C'était beaucoup plus que le deuxième où finalement, on pouvait un peu plus aller. Enfin, on était un poil plus libre, on va dire. Mais la grande constante de toute l'année, finalement, ça a été que j'ai été beaucoup plus sélective en termes de qualité. Et surtout, je suis allée beaucoup plus que d'habitude. J'adore en général les comédies, mais là, vraiment, j'avais besoin quasi que de comédies ou de trucs fantastiques, SF. Bref, tout ce qui s'éloignait de quelque chose de réaliste. Toute la réalité, j'ai fait un rejet en fait. Donc évidemment, j'en ai regardé parce que il faut que je travaille et voilà, il faut pouvoir en parler. Mais de moi-même, en tout cas, voilà, il y a eu des séries formidables qui m'ont porté cette année. Il y a eu Schitt's Creek, il y a eu Ted Lasso, qui était une découverte incroyable. Et voilà, donc merci les comédies d'exister, quoi. Voilà. Check out the new dance I made up. It's called Ooh, let me out. Let me out. Let me out. This is not a dance. I'm begging for help. I'm screaming for help. Please come let me out. Let me out. Let me out. This is not a dance. I'm begging for help. I'm screaming for help. Please come let me out. Bon, pour revenir à un peu plus de réalité, c'est vrai que comme il est beaucoup aidé là-dessus. On va reprendre un petit peu les événements, se rappeler un peu ce qui s'est passé au fil des mois. Et libre un peu d'intervenir quand ça vous chante là-dessus, que ça, quand ça vous reviendra en tête, c'est pas vrai, c'était en 2020, c'est pas possible. Donc, pour revenir plus en détail sur cette année particulièrement folle, à travers le prisme des séries, on va faire un petit tour chronologique comme ça. Commencer par exemple par le tournage de la saison de l'Hippocrate. Elle s'est interrompue en mars et son réalisateur Thomas Lickley est redevenu médecin urgentiste, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2003 quand même. Donc, pour faire un parallèle réalité-fiction là, totale, pour le coup, et pour faire encore plus fort, dans l'hôpital même où est tournée la série Hippocrate de Canal+, il faut le rappeler. Donc, on est vraiment dans justement le jus pur, le cœur du Covid. Qu'est-ce qu'on fait quand on peut plus tourner une série médicale? Eh ben, on redevient médecin. En tout cas, voilà, c'est un peu le point de départ, on pourrait dire, de cette année qui a été particulièrement intense. Et du coup, pareil, niveau intensité, Netflix a gagné plus de 28 millions d'abonnés rien qu'entre janvier et septembre, une explosion littéralement, et deviennent pour le coup incontournables. On a regardé des séries, on a même partagé des programmes, un peu en confinement et à distance, comme on est en train de le faire là maintenant. Et on pouvait se recréer ces soirées de visionnage qu'on voyait dans les séries, qu'on faisait pas forcément tous chez soi. Mais toi, Stéphanie, c'est pareil. Pour toi, ça a été une vraie mine d'or, je crois. Tu disais de ce Netflix, justement, incontournable.
Alors moi, Netflix, je suis assez partagée en fait, parce que je trouve que c'est une mine d'or, surtout pour les séries documentaires et pour les créations originales. Après, je trouve que il y a beaucoup aussi de succès marketing et que ça cache finalement ce qu'il y a de bien sur les autres plateformes. Et c'est un peu dommage. J'ai l'impression, pour faire un parallèle avec les chaînes hertziennes, pour moi, ça me fait l'effet de TF1. C'est-à-dire que les gens sont un peu, voilà, ils connaissent TF1, c'est la première chaîne, etc. Donc, ils vont avoir le réflexe TF1. Et finalement, Netflix, c'est un peu ça. Alors, il y a des super créations originales. Moi, comme je disais, Le jeu de la dame, j'ai trouvé ça extraordinaire. La chronique de Bridgerton, j'ai beaucoup aimé. Depuis le début, ils ont des trucs très bien, puisque House of Cards, c'était super, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi beaucoup de séries pour ados, il y a aussi beaucoup de séries qui ne sont pas de Netflix et qui font passer pour Netflix. Voilà, ils mettent toujours en avant Peaky Blinders ou Riverdale, ou voilà, bon, c'est pas des séries Netflix en fait. Donc voilà, je suis partagée, c'est-à-dire que je trouve que c'est bien parce qu'on a accès à tout ça et que c'est très facile d'accès, c'est très bien présenté, c'est très bien. Ils ont un super compte Instagram avec un mec qui fait des trucs, qui fait des posts très drôles, et effectivement ça marche très bien. Mais voilà, Apple TV, il y a aussi des très bons contenus, des très bonnes séries, peut-être un peu plus dark, mais qui sont très bien. Et par exemple, Defending Jacob, qui était très bien cette année. Ou alors, sur Amazon, on a eu aussi Good Omens ou American Gods, qui sont des séries peut-être un petit peu plus difficiles d'accès, mais qui sont aussi très, très bien.
Jennifer, toi, t'en pensais quoi?
Alors,
il y a Netflix.
Oui, par rapport à Netflix, en fait, je suis de plus en plus déçue en fait par leur stratégie, parce que à la fois ils arrivent à avoir des bons programmes dont tout le monde parle et qui font vraiment le buzz, mais justement c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que du coup les séries les plus mises en avant par la plateforme sont les plus plébiscitées et vice versa. Et donc en gros, ce qui me dérange, c'est que leur très bon programme, comme Grand Army par exemple, que j'ai regardé récemment et que j'ai adoré, qui je trouve même est mieux que Sex Education par exemple, dans le même genre teen, ne sera pas du tout plébiscité. Donc, on peut se dire, voilà, ils ont eu des polémiques autour de la série, donc peut-être qu'ils voulaient éviter de ressortir ces polémiques-là, mais ça arrive pour plein d'autres séries. Par exemple, Easy, une autre série hyper confidentielle qui est très qualitative, n'est absolument pas connue des téléspectateurs. Donc, Netflix, pour moi, est ambivalent. Enfin, je trouve qu'il y a, il y a quelques bonnes choses, mais c'est assez minime. Et je trouve que ces derniers temps, en fait, il y a vraiment cette signature Netflix, en fait, qu'on retrouve dans toutes les séries, avec le même type de photographie, avec toujours un peu ces ressorts scénaristiques où il y a de la diversité, mais qui n'est pas forcément mise en avant de la bonne manière. On sent parfois qu'ils veulent veulent cocher toutes les cases. Voilà, un personnage non blanc, un personnage queer, une femme forte, etc. Et en fait, je me demande si les producteurs ou les réalisateurs qui travaillent avec Netflix ont une charte. Ce sera intéressant de savoir s'ils ont une charte ou...
Au bout de la charte cinéma qu'a imposé les Oscars, c'est vrai que la télévision, les séries ont bien mis ça en avant très vite, très tôt, elles.
Oui, c'est ça. Et je trouve que, par exemple, ça, c'est un sujet limite. Je pense que ce serait l'épisode d'un podcast qu'on devrait faire que sur Netflix.
Suggestion.
Limite, voilà, une idée pour les prochaines fois. En tout cas, c'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment et je réfléchis beaucoup dessus. Mais c'est vrai que quand je regarde d'autres plateformes comme Amazon Prime, par exemple, qui a moins de programmes connus, mais qui arrive, je trouve, à faire des propositions beaucoup plus originales où on sent qu'ils sont moins dans le buzz, mais plus dans une espèce de recherche... une recherche un peu cinématographique. Enfin, ils tentent des choses. Tout n'est pas bon. Mmh. Par exemple, là récemment, il y a eu Upload et The Wilds que j'ai pas encore commencé pour The Wilds, mais Upload, j'ai trouvé ça hyper original. Enfin, alors certaines personnes diront que c'est une pâle copie de The Good Place, alors qu'en fait, pas vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment une sorte d'inventivité, d'originalité que Netflix n'arrive plus trop à avoir aujourd'hui. Et HBO Max, je trouve qu'ils ont vraiment rempli le pari, parce qu'au départ, beaucoup de personnes se sont dit que ce sera la version cheap de HBO. Et en fait, je trouve qu'ils arrivent vraiment à conserver la qualité de HBO tout en étant un peu plus jeune. Donc, il y a Industry qui est sur HBO, il y a Search Party, et là, récemment, il y a aussi The Flight Attendant. Et pareil, on sent qu'il y a une patte un peu plus novatrice parce que c'est plus jeune dans l'écriture, mais il y a quand même la qualité en fait qui reste présente. Bah, Euphoria aussi. Euphoria, je sais plus, c'était sur HBO Max.
OCS, ouais.
C'est HBO.
C'est HBO tout court, ouais.
Ouais. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui Netflix a des sérieux concurrents et il faut pouvoir en fait diversifier les plateformes. Donc il y a Canal+, il y a OCS. Donc Netflix à méditer, quoi. Je pense que faut pas se reposer trop sur ses lauriers. Donc j'ai hâte de voir comment ils peuvent se rattraper sur
ça. C'est assez bien résumé ce que tu dis en plus, Jennifer, parce que vraiment je trouve que de plus en plus ça commence à se voir que Netflix, à défaut de s'acheter une créativité, mais une crédibilité en faisant vraiment d'excellentes séries, elle s'achète une image et une caution, je mets des guillemets, woke, parce que évidemment que c'est génial qu'elle signe des énormes deals avec Shonda Rhimes, et ça Jennifer pourrait en parler mieux que moi en tant que grande spécialiste de Shonda. Voilà, Netflix s'est acheté Ryan Murphy. Netflix, c'est avant tout, c'est proposer énormément de contenu, ça on le sait. Il n'y a pas spécialement une ambition éditoriale d'élever le récit, qualitativement à l'image. Faut que ce soit propre, faut que ce soit beau, ça y a rien à dire. Mais il y a du pognon.
Nicolas Dubio.
Voilà, mais le talent d'écriture, tu pourras faire un chèque avec plein de zéros derrière. Bon, ça ne s'achète pas. Donc, Netflix, leur puissance de frappe, c'est quoi ? C'est le porte-monnaie et ils peuvent s'acheter des énormes showrunners hyper en vogue et en plus rajouter à leur image en ayant justement des showrunners et des showrunneuses qui mettent en avant la diversité. On est quand même à une année, en début d'année, il y a eu les manifestations Black Lives Matter aux États-Unis. On a eu l'impression que tout le monde se réveillait tout d'un coup, que le monde d'Hollywood disait mais c'est vrai, il y a trop d'injustices. Alors, cool, c'est très tard, hein, mais cool. Et du coup, ben, évidemment que Netflix, ils arrivent là-dessus, ils prennent le truc, la gondole en marche. Et voilà, donc tant mieux, parce que ça permet de mettre en avant des talents créatifs qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Le fait d'avoir Shonda Rhimes chez eux, ça permet d'ouvrir la porte à des scénaristes qui viennent de son écurie, en gros. Donc ça, c'est cool en termes de visibilité, mais il ne faut effectivement pas non plus trop se leurrer sur les intentions de Netflix. Ils font beaucoup de séries. Voilà.
Ouais. Oui, et Kira, juste pour te rejoindre, on en avait parlé avec l'épisode enregistré avec Jean-Pascal Zadi. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette idée d'économie en fait, derrière qui est prédominante. C'est ouais. que... toutes ces questions-là, tous ces personnages mis en avant sont là en fait pour attirer un certain public. Mais une fois qu'on regarde la série, souvent, on se rend compte en fait que ce ne sont que des faire-valoir. Mais du coup, comme il y a 30 ans, donc on se demande parfois qu'est-ce qui a vraiment changé. Est-ce que c'est l'affiche qui a changé ? Du coup, on nous fait croire que ça va mieux ou est-ce que les scénaristes ont vraiment changé ? Et c'est vrai que Netflix, enfin, de plus en plus, enfin. Ça commence à devenir vraiment, vraiment gênant. Et je te rejoins, Delphine, sur ça. Je pense que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus autour de moi, alors qu'il y a quelques années, c'était moins le cas. Mmh. Et c'est vrai qu'on est loin du Netflix de Orange is the New Black, quoi. Mmh. À ses débuts, là, on est passé à autre chose.
Ouais, d'ailleurs, j'encourage les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à réécouter ce super épisode qu'on avait fait sur la diversité dans les séries, qu'on avait enregistré dans le cadre de Cannes Série, voilà, il y a quelques mois. Donc, voilà, si le sujet vous intéresse, on développe davantage dans cet épisode. Voilà, c'est tout pour ton promo.
C'est pour ça. Pour parler justement de gros fournisseurs de contenu, justement, le 7 avril arrive Disney+, également gros pourvoyeur, qui arrive avec une grosse force de frappe en termes de franchise, plus qu'en termes de série. Hein. On avait donc Star Wars, principalement, en tête de gondole, avec The Mandalorian, qui a été un succès critique et public. Qui est donc littéralement lancé, comme toutes ces plateformes ont été lancées par une très grosse série, a lancé la série.
Moi, je voulais glisser un mot sur Arte TV aussi, qui commence un petit peu à tirer son épingle du jeu aussi, avec un programme qui est plus étoffé. Et je pense qu'on sera amené à plus en parler si c'est un peu sur le même principe. Et je pense qu'ils pourront profiter effectivement que le cinéma soit fermé, malheureusement, pour mettre un petit peu en avant leurs achats. En plus, il y a pas mal de trucs internationaux. Mais c'est vrai que pour France TV, ce qui est bien, c'est qu'ils se permettent des choses que les chaînes françaises hertziennes hésitent encore à faire, même si là, ils osent un petit peu plus avec les prochains programmes qu'on verra en 2021. Mais voilà, ils sont un petit peu plus, ils ont un côté plus décalé, qui, un peu comme Orange aussi, OCS à un moment, qui faisait des séries un petit peu plus décalées. Ben là, c'est vrai que France TV, il y a ce petit côté un petit peu fou qui fait du bien, ce petit grain de folie qui nous manque un petit peu souvent dans les fictions françaises.
Tu faisais un parallèle avec, effectivement, avec les fermetures de cinéma. Et alors, moi, je ne peux pas parler pour le cinéma parce que pour le coup, ce n'est pas du tout mon domaine. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que en temps normal, les gens qui vont au cinéma et le nombre de gens qui sont devant une série, c'est pas des vases communicants. Quand Netflix est arrivé, je me souviens que c'était la panique, c'était ouais, mais les gens vont binge-watcher des séries, puis depuis que les gens regardent des séries à l'appel, ils vont plus aller au cinéma, ce qui s'est avéré faux. Mais effectivement, on est en confinement et qu'est-ce qu'on a sous la main quand on fait les... Plutôt que de faire le tour de son appart, moi j'ai fait les 100 pas dans mon appart pour essayer de faire un peu d'exercice physique en début d'année. Et puis une fois qu'on a fait ça, on fait quoi ? Ben, en fait, on allume effectivement les plateformes. Alors moi, pour mon travail, c'est vrai que nous, on a accès à plusieurs plateformes. Donc on n'est pas nécessairement tout le temps foutu sur Netflix. Mais les Français et les Françaises, finalement, pendant leur confinement, ben, probablement qu'ils ont beaucoup regardé Netflix, probablement qu'ils ont regardé des films aussi. Mais enfin, les séries, c'est un endroit merveilleux où le temps est dilué, où les soucis sont oubliés le temps d'un épisode, de 10 épisodes d'une saison. Donc, c'est peut-être de ça aussi dont on avait besoin pendant le confinement. Et effectivement, il n'y a pas que Netflix comme plateforme. Et je trouve que cette année, les plateformes... plus généralement, même les séries françaises se sont vachement bien démerdées et nous ont proposé des trucs vraiment cool. Parmi celles qui s'en sortent le mieux en termes de création française en ce moment, effectivement, il y a OCS et il y a France.tv ou France TV slash, qui est à peu près la même chose. Et personnellement, enfin, moi, j'ai été très surprise par Parlement, qui était vraiment une proposition bizarre. En plus, c'était on va vous faire une comédie sur le Parlement européen. Mais quoi ? Mais tout le monde s'en fout. Mais qu'est-ce que vous faites ? Et en fait, c'est hyper drôle, c'est hyper influencé, je pense, par l'humour anglais aussi. D'ailleurs, elle a reçu le prix de la meilleure série 26 minutes au prix ACS qu'on a remis cette année. On leur fera un petit clin d'œil plus tard. J'ai aussi adoré... j'ai bien aimé Derby Girl. J'ai trouvé que c'était une proposition intéressante. Elle a des défauts, mais elle a le mérite d'exister et de voir des filles aussi un peu... il y a des trucs qui m'ont dérangée, mais de voir des filles qui s'autorisaient un peu à être trash, quoi, à être... voilà quoi, enfin à parler de leur épilation de la chatte, de parler de leurs règles, de parler de voilà, je trouvais c'est ça fun, je trouvais temps. Ça c'est... ouais non mais c'est super et c'est dans l'air et puis c'est dans l'air du temps quoi, au bout d'un moment faut que les séries françaises elles accrochent la locomotive quoi et qu'elles s'y mettent et mais vraiment mon puisqu'on est dans les séries françaises, vraiment mon coup de cœur moi cette année ça a été Cheyenne et Lola sur OCS que j'ai trouvé absolument fabuleuse et qui est vraiment deux portraits de femmes comme j'en avais jamais vu dans une série française, qui est hyper bien jouée et hyper bien écrite, hyper bien filmée. Voilà, donc vous pouvez encore la regarder sur OCS. Elle est géniale. Voilà.
D'ailleurs, pour continuer un peu sur les séries françaises, si on comptabilise un peu sur ce qui a le plus marché en France, les plateformes n'ont pas été les seules et uniques grands gagnants de cette période. Les Bracelets Rouges et Balthazar sur TF1, ça a cartonné. 10% sur sa dernière saison, très gros buzz et très grosse réussite du fait justement que c'était aussi la dernière sur France 2. Captain Marlowe, des scores complètement incroyables, hein, écrase toute la concurrence, même des films américains. Avec des rediffusions, me disait encore un de nos collègues tout à l'heure, avec des rediffusions, arrive à niquer la concurrence, en gros, quoi, pour parler simplement. Mais on a eu aussi d'autres exemples de très bonnes réussites, comme Dérapage avec Eric Cantona sur Arte et des finales d'Engrenage sur Canal+, qui ont bien cartonné. Juste un petit parallèle, et après je vais peut-être laisser, je crois que Stéphane, tu voulais parler un peu de Cantona, qui est peut-être dedans, ça se trouve même. Et en fait, pour dire que notamment à la CS, avec les prix, on avait aussi, l'un des grands gagnants avait été le Bureau des Légendes, qui a aussi fait sa sortie, donc deux grosses séries Canal+ ont fait leur sortie cette année avec Engrenage et Le Bureau des Légendes. Bureau des Légendes qu'on a récompensé deux fois donc avec un prix de la production et un prix d'interprétation. Je vais le rappeler que notamment quand même Le Bureau des Légendes a fait une sortie digne d'un Game of Thrones où les fans se battaient sur les réseaux sociaux tellement ils étaient peu satisfaits de ce final. On était vraiment dans une pure ambiance Game of Thrones et en France, ça fait quand même c'est un peu surprenant. Voilà. Et tu disais, oui, tu avais beaucoup aimé ce que Cantona avait fait, notamment cette année.
Oui, juste pour revenir 2 secondes sur le Bureau des légendes, je trouve que c'est aussi un tribut aux séries Canal qui sont quand même depuis longtemps, qui ont toujours voulu avoir un style beaucoup plus léché que les séries françaises habituelles et qui ont toujours un point de vue. Alors on aime ou on n'aime pas, mais voilà, elles ont un style, elles ont un genre. Et le Bureau des légendes, c'est vrai que c'est très très bien fait et c'est fait à l'américaine en fait, donc avec un showrunner qui vraiment harmonise toute l'histoire et voilà, ça se ressent. Et donc tant mieux. Et j'espère qu'il y aura plus de séries comme ça. Et puis par rapport à Cantona, oui, c'est en fait c'était aussi pour parler un petit peu de France Télé et de France 3 qui est souvent moquée, voilà, la chaîne des vieux avec des programmes pour les papilles. Mais Eric Cantona, il fait une série qui s'appelle donc Le Vagabond sur France 3, qui est très bien. Et dans Dérapage sur Arte, il était excellent. Et je dis ça d'autant plus facilement que moi, je suis pas non plus très attirée en général par les séries françaises. Donc voilà, quand je tombe sur des programmes qui, moi, je trouve sont plutôt convaincants, ben, je l'avoue et voilà, je trouve que Cantona, ben, c'est la bonne surprise, quoi. Il a bien réussi sa reconversion. On ne sent pas du tout la fan, mais je voulais aussi faire un coup de chapeau à Capitaine Marlowe, moi dont je suis fan depuis le début, et que tout le monde regardait un petit peu de travers au début. Et effectivement, son héroïne, elle est clivante, son interprète, elle est clivante, mais c'est ça qui est bien. Il n'y a pas d'équivalent en série, et je pense que ce succès s'explique aussi par son interprète, parce que bon, on va pas se mentir, la réalisation de José Dayan, voilà, hein, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais en tout cas, ce personnage et ses répliques, je pense, ça peut rester, en tout cas, ça peut devenir quelque chose de culte dans les séries françaises. Donc, c'est pas à prendre, voilà, comme une petite série française. Comme on continue des fois de l'entendre, voilà, c'est Marlowe. Bon, on parle de ses exploits, puis hop, dès que ses exploits disparaissent, on n'en parle plus, et puis on en parle avec un ton un peu, ouais, Marlowe. Voilà, donc je voulais dire un bravo à France Télé qui a su quand même se renouveler, qui est plus juste une chaîne de vieux. Et puis quant à Canal, moi j'ai toujours trouvé que leur politique de série était très intéressante. Des fois, c'est un petit peu prétentieux. Mais c'est toujours visuellement très beau et il y a toujours une ambition scénaristique. Les personnages aussi sont fouillés. Là, dernièrement, j'ai vu OVNI. J'ai trouvé ça très, très sympa, très original sur une unité qui existe encore d'ailleurs et qui étudie les phénomènes paranormaux. Et avec Melville Poupeau, et c'est vraiment, je la conseille, elle est très 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 chouette. Voilà, donc et puis aussi en programme français, et ben je voulais aussi parler de Barnaby et de Chérie 25, une petite chaîne de la TNT dont on parle pas souvent et qui a récupéré plein de séries anglaises qui n'étaient pas forcément passées en France et qui méritent le détour, comme Paul Dark ou Orgueil et Préjugés ou Parade End ou Sanditon, et c'est des belle série, un peu à la Downton Abbey, qui, je pense, plairait à un grand public.
On avait, justement, on parlait beaucoup de séries françaises, on n'a pas évoqué, mais on a eu tout un podcast pour le faire, donc je vous envoie vers le podcast que nous avons fait sur Salto, qui est la première expérience de plateforme dédiée, plateforme française, pour le coup. Qui elle aussi s'est lancée, elle c'était le 20 octobre, donc on approche de la fin de l'année, qui était donc considérée pas ou comme une réponse française aux plateformes américaines, ou plus raisonnablement un replay français amélioré. On en a parlé un peu longuement, mais je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir des petites choses dessus qui vous ont pu vous intéresser, vous avez envoyé des choses à ressortir.
Ouais, alors moi c'est marrant parce que du coup j'ai pu la tester deuxième confinement, j'étais avec mes parents, donc je pense que c'est un peu les utilisateurs cibles.
C'est les quinquagénaires, hein. Apparemment c'est eux qui ont fait, sont venus en masse pour avec des fonctions
ouais, bon, à l'avance. Mes parents sont de jeunes et fringants sexagénaires, mais qui aiment bien les séries old jeunes, qui me demandent tout le temps qu'est-ce qu'on regarde après. Et du coup, on a pu tester un peu Salto. Et alors, c'est cool pour le Bon, d'abord, la plateforme, elle est. Bon, faudra vraiment écouter le numéro. Il y en a qui en ont parlé bien mieux que moi et un épisode des Jarrettes consacré à Salto, comme tu le disais. Mais en gros, enfin, moi, je trouve qu'elle est bien foutue. Il y a un trait d'humour avec le choix de ton programme selon ton signe astrologique. C'est du gadget, on s'en fout, mais c'est marrant. Mais surtout, enfin moi, Salto, personnellement, ils m'ont eu le jour où j'ai appris qu'ils avaient acheté les droits de Parks and Recreation, qui était absente. C'était incompréhensible, qui n'était ni sur, qui n'était pas sur sur Netflix, qui n'était pas sur Amazon, et moi, une de mes comédies préférées de tous les temps. Et je suis contente de pouvoir maintenant, je saurai où la trouver si j'ai besoin de me refaire, de la remater pour la quatrième fois ou cinquième fois, j'ai arrêté de compter.
Il y en a besoin, voilà. De fun. Est-ce qu'on aura besoin de fun en 2021? Si on a besoin de fun, en tout cas, il n'y a pas que c'est Henry Creation.
Mais on a toujours besoin. On a toujours besoin de comédie. C'est les comédies, c'est la vie, quoi. Voilà.
Ouais.
Et sinon, sur Salto, ce qui est intéressant, c'est les programmes qu'ils mettent en avance. Par exemple, les gens peuvent déjà regarder La Promesse sur TF1 avec Sophia Essaïdi et je perds son nom, Olivier Marchal. Olivier Marchal, voilà, et qui est une très bonne série, et du coup, on peut déjà la regarder, elle est déjà dispo, et ça, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça, de mettre un peu des exclus de leur programme en avance. Et puis, comme Delphine, moi, j'avais adoré le fait qu'il y ait, par exemple, Seinfeld, qui est très méconnu en France, et puis là, il y a tout The Office avec Steve Carell qui rentre au catalogue, donc on peut se faire des... j'espère qu'en tout cas, ça va permettre à un public plus large en France de découvrir les sitcoms américaines, voilà, qu'on connaissait moins et qui sont plus pour les spécialistes, et que ça va les populariser, quoi. Ce serait bien.
La carte blanche de l'ACS.
Donc, Delphine,
oui.
Tu vas nous faire un petit truc à nous faire là, je crois, non?
Oui, oui, oui. En fait, ma carte blanche aujourd'hui, c'est davantage une carte de remerciement. Donc voilà. En fait, en tant que présidente de l'ACS, je pense pouvoir parler au nom des membres de l'association en remerciant chaleureusement nos auditeurs et auditrices qui ont suivi un épisode des Jarrettes durant cette année plutôt tourmentée. On a d'abord changé de maison et vous avez été nombreuses et nombreux à réclamer le retour du podcast. Donc, merci encore. Et puis après, à peine installé dans le chouette studio de Beta Série, la pandémie de coronavirus a frappé et on a dû s'adapter. Alors, on a d'abord tâtonné, on vous a proposé des cartes blanches individuelles, ce qui a eu le mérite aussi de laisser s'exprimer certaines voix que vous n'aviez pas pu entendre dans le podcast auparavant. Et enfin, à la rentrée, les enregistrements ont pu reprendre presque normalement, à quelques détails près. Donc, on n'a toujours pas retrouvé le chemin du studio, comme vous pouvez l'entendre. Et on essaye désormais de vous fournir un épisode toutes les deux semaines. Mais surtout, rassurez-vous, notre motivation et notre envie de vous parler de séries, elles n'ont pas faibli d'un iota. Enfin, j'aimerais adresser quelques mots à celles et ceux sans qui nous ne serions pas là. Et voilà, parce qu'on parle de leurs œuvres à longueur de podcasts et à longueur d'articles. Les scénaristes de séries. Un grand merci donc à ces conteurs et conteuses et toutes celles et ceux qui les entourent dans cette merveilleuse entreprise qu'est la fabrication d'une série. Vous avez permis de rendre le confinement, les deux mêmes confinements, bien moins ennuyeux et cette année aussi un peu plus douce à supporter. Donc on espère pouvoir vous retrouver tous et toutes en chair et en os, auditeurs, auditrices, scénaristes et autres artisans des séries. On l'espère durant les prochains festivals de Lille, Cannes, Fontainebleau, La Rochelle ou encore Monte-Carlo, qui nous ont tant manqué en 2020. Donc d'ici là, restez à l'écoute d'un épisode des Jarrettes et regardez des séries qui vous font du bien. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021.
Merci, chef. C'est sûr, c'est bon que se termine ce nouvel épisode d'un épisode des Jarrettes, le podcast de l'ACS, en partenariat avec Beta Série, comme tu l'as dit justement un peu. Merci à Delphine Rivet, notre chef vénéré de Combini, Jennifer Padjemi, autrice de Féminisme et Pop Culture en librairie en mars prochain. Retournez en librairie, ça aussi ça compte.
Et achetez-le!
Achetez-le! Voler ce livre. Et Stéphanie Fuseau de Prisma Presse et Télé Loisirs. On se retrouve très bientôt pour vous apporter un éclairage sur 2021. Retrouvez toutes nos émissions sur les plateformes dédiées, SoundCloud, Spotify et notre Facebook. Bon épisode et j'arrête. Je vous remercie, mesdemoiselles. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne fin de confinement. On se retrouve bientôt avec surtout une bonne dose de gel hydroalcoolique. Je vous check. À distance. Ciao.
Check. Ciao. Salut.
Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.